Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous. Dire stop au gaspillage alimentaire, manger mieux, jeter moins, c'est le credo de Céline Julia qui a fondé à Toulouse les Repêchés Mignons. Elle récupère les fruits et légumes que les supermarchés ne veulent pas vendre pour en faire des confitures. En France, nous jetons en moyenne 21% des aliments que nous achetons, ce qui représente 6 millions de tonnes de déchets alimentaires par an. Soit, on a fait le calcul, 20 kilos par an et par Français, c'est énorme. Régulièrement, des grandes campagnes sont lancées pour nous inciter à mieux consommer, à moins jeter. On jetterait 13 kilos de fruits et légumes abîmés par an et par famille. Céline Julien n'a pas attendu les consignes pour s'élancer, pour ne pas gaspiller. Ne pas gaspiller, d'ailleurs, Céline fait partie de votre ADN. Bonjour Céline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors, c'est pour toutes ces bonnes raisons que vous avez fondé les Repêchés Mignons.
Oui, tout à fait. C'est parti d'un constat simple, le même que vous venez de faire. C'est-à-dire qu'actuellement, on arrive à une aberration où on produit pour jeter. Donc un jour, je me suis dit qu'il fallait changer ça, que c'était pas possible d'être dans une société où on est capable de dépenser de l'énergie, du temps, du travail pour produire la nourriture et que cette nourriture ne serve à rien et ne soit même pas valorisée.
Et que ça termine à la poubelle.
Tout à fait.
Alors, votre idée, c'était laquelle au départ et c'est toujours celle d'aujourd'hui? Ça fait combien de temps, d'ailleurs, vous avez lancé l'entreprise?
Alors, on a fêté les 1 an des Repêchés Mignons le 22 octobre dernier.
Bon,
donc c'est tout nouveau.
C'est tout nouveau, ça a 1 an, ça commence à bien fonctionner, vous allez l'entendre. Donc, vous avez lancé il y a 1 an. Votre idée, c'était d'aller récupérer les fruits et légumes abîmés ou on va dire, dont la date est dépassée dans les supermarchés?
Alors, mon idée, c'était, à la base, c'était juste de réduire le gaspillage alimentaire par tous les moyens. C'était de récupérer effectivement les invendus des supermarchés ou les invendus directement au-dessus des grossistes.
Des grossistes,
ce que je fais actuellement.
Ouais.
Et de les revaloriser, de les remettre sur le marché pour montrer aux consommateurs que, effectivement, un fruit ou un légume un petit peu abîmé, c'est pas grave. On peut, en le cuisant, s'en resservir, le manger. Il n'est pas du tout non comestible. Un fruit ou un légume qui est pourri, ça se voit. Et on peut totalement enlever la partie non comestible pour manger le reste. Et ou faire attention aussi à son mode de consommation et ses techniques d'achat pour apprendre aussi à raisonner ses achats.
Donc c'était ça au départ votre idée.
C'est
un peu dans la même veine que les gueules cassées, ces légumes que l'on peut acheter parce que moins cher parce qu'ils ne sont pas parfaitement calibrés.
Oui, un peu. En fait, c'est parti de. On est plusieurs à avoir des activités anti-gaspillage aujourd'hui en France.
Ouais.
Les gueules cassées en font partie évidemment. Moi, je fais partie de l'association Disco Soup, une association de sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Ouais.
Donc à la base, c'est une association de bénévoles où on se réapproprie l'espace public de manière fun et ludique. Et on incite les gens à venir cuisiner avec nous pour leur montrer que effectivement tous les aliments qu'on a récupérés dans les supermarchés, donc tous les invendus, peuvent être sont super bons à manger en fait, parce qu'on fait des plats, enfin on s'éclate et c'est très bon ce qu'on fait, enfin, ce que les gens font avec nous plutôt. Et voilà. Et du coup, de ce mouvement-là et d'autres mouvements sont apparus plusieurs projets comme le mien. Il y a les confitures Rebelles à Paris qui font la même chose.
Ouais.
Les confitures J'aime beaucoup à Chambéry. Il y a Fouille qui fait du cuir de fruits. C'est super bon. Des sortes de tagliatelles de fruits avec des fruits qu'elle récupère directement auprès des producteurs. Enfin voilà, il y a plein d'initiatives comme ça qui arrivent.
Pour ne plus jeter.
Pour ne plus jeter.
Ouais,
et ça fait du bien.
Et vous vous êtes dit, je vais faire des confitures.
Moi, je me suis dit, exactement, je vais prendre exemple sur ma copine parisienne qui fait ça. Et je vais faire la même chose à Toulouse. Parce que l'avantage, l'intérêt de l'anti-gaspi, c'est que c'est toujours hyper local. Car il y a suffisamment d'invendus sur région, enfin sur un territoire, pour les exploiter.
Ouais, ouais.
Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire des confitures à Toulouse parce que les confitures, c'est bon, c'est facile à faire, j'aime bien, j'en faisais quand j'étais petite. Alors, pourquoi pas remettre ça, me remettre là-dedans, quoi.
Voilà, et la confiture, alors, vous avez quel âge, Céline?
J'ai 30 ans.
Vous avez 30 ans. La confiture, ça a une image un peu, pardonnez-moi, un peu mémé.
Oui, tout à fait. Non, mais ne vous excusez pas. On m'a déjà demandé si j'allais me mettre au tricot quand j'étais sur les marchés. Effectivement, ça a une image un peu mémé. Mais c'est ça que j'aime bien, justement, parce que moi, mon but, en plus de lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est de casser les codes. c'est d'essayer de montrer qu'on peut faire des choses engagées tout en étant fun, ludique, atypique et spontané. Du coup, reprendre un truc de grand-mère pour le faire en étant jeune et en... Alors du coup, moi je mets plein de couleurs pour être fun. Je mets plein d'épices dans mes confitures parce que j'aime pas du tout les... Enfin non, c'est pas que j'aime pas les goûts classiques, mais j'aime surprendre mon consommateur. Donc je fais que des confitures atypiques. Et c'est aussi pour montrer que je fais aussi des animations et des formations pour apprendre à faire ses propres bocaux, pour montrer aux gens que ben, faire ses bocaux ou faire ses confitures, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend moins de temps que d'aller les acheter au supermarché. C'est beaucoup meilleur, beaucoup plus bon. Parce qu'au moins, on sait ce qu'il y a dedans.
Ouais, c'est ça.
Et puis, ça, c'est valorisant. C'est un grand plaisir de manger après ce qu'on a fait ou d'offrir ce qu'on a fabriqué.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est plus un truc de grand-mère, en tout cas à Toulouse.
Voilà, tout à fait. Alors donc, comment vous faites concrètement? Vous allez chez les grossistes, vous récupérez les fruits invendus. Comment a été accueillie votre démarche?
Alors, y a
Vous avez été surpris ou pas?
Alors, il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps où j'allais voir des grandes surfaces, enfin des distributeurs classiques, où là, bah, à force de parler avec le gérant, souvent ils sont pas plus méchants que les consommateurs, même si on a tendance à le croire. Et souvent, ils sont totalement prêts à filer un coup de main. Si, il faut juste leur expliquer la démarche. Ça prend du temps de sensibilisation.
Bien sûr.
Mais bon, je vous dis pas que ça a été facile, hein, parce que ça prend du temps et que tout le monde n'est pas ouvert à ce genre de projet. Mais ça avance. Et pour les grossistes, en fait, je passe par un intermédiaire qui s'appelle Sophénix, comme Sud-Ouest, et qui fait le lien entre les entreprises qui gaspillent, généralement de l'alimentaire ou pas, ou du non-alimentaire, et les associations ou entreprises qui récupèrent pour donner ou transformer.
D'accord.
Okay. Donc, c'est eux qui cherchent, qui sourcent les invendus pour moi, en fait, aujourd'hui.
D'accord.
Et ça, c'est génial. Parce que ça permet... Moi, ça m'enlève une charge de travail. Eux, ça leur donne du travail. Et j'estime que s'il y a les compétences ailleurs que dans mon entreprise, autant que je me serve de ces compétences-là plutôt que je cherche à tout ramener à moi.
Donc, vous n'avez pas à faire la tournée, en fait, avec un camion chaque jour pour récupérer.
Par contre, c'est nous qui récupérons. Eux, ils font vraiment que le lien.
D'accord.
C'est un intermédiaire. Enfin, voilà, c'est de la mise en relation, en fait. Et c'est nous qui allons récupérer les invendus auprès des grossistes.
Vous récupérez ensuite, alors Céline, vous cuisinez ou vous cuisiniez?
Voilà, c'est ça, exactement. Je cuisinais, j'ai cuisiné pendant un an mes confitures, en gros.
Chez vous, dans votre...
Chez vous, dans ma cuisine. Alors, c'était un peu compliqué, hein. Il y avait un peu des pots partout dans l'appartement, même sous mon lit. Enfin bon, bref, ça a été la belle époque de quand on commence.
Le début de l'entreprise.
Exactement, c'est encore le début, mais là, ça s'améliore un petit peu. Donc pendant un an, j'ai cuisiné à la maison, c'est moi qui fabriquais, j'ai créé les recettes. Alors, je ne les ai pas toutes inventées, hein, mais je cuisinais à la maison. Et là, depuis fin août, j'ai lancé, et jusqu'à fin décembre, j'ai lancé un partenariat avec un atelier chantier d'insertion pour femmes qui cuisine les confitures pour moi. Du coup, il y a eu une encadrante technique et trois dames en insertion qui fabriquent tous les jours des confitures pour moi.
Mais c'est merveilleux, vous avez créé de l'emploi.
Exactement. Temporaire, mais je suis contente parce que pendant 6 mois, il y a 4 personnes qui ont eu un salaire grâce à moi.
Ouais.
Donc c'est génial.
Tout à fait.
Je suis très très contente.
C'est une idée que vous aimeriez poursuivre, exploiter?
Totalement. Totalement, moi, mon objectif à terme, c'est de créer mon propre laboratoire de production et de travailler avec des personnes en insertion ou un public en difficulté en général. Ce sera à voir suivant comment je me développe et suivant les besoins aussi du territoire, parce qu'ils peuvent changer et je ne les connais pas encore à 100%. Mais oui, c'est l'objectif et c'est aussi pour ça que j'ai choisi les confitures. Outre que c'est un produit que j'adore, c'est un produit qui est quand même facile à fabriquer parce que c'est de la découpe, de la cuisson et de la mise en bocaux. C'est pas comme de la, je dis n'importe quoi, mais de la pâtisserie ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment facile à mettre en œuvre et ce sont des techniques que les personnes qui travailleront avec moi pourront reproduire chez elles et elles pourront donc acquérir une sorte de résilience et c'est ça que je trouve intéressant aussi.
Ouais, tout à fait. Alors, on parlait de votre circuit d'approvisionnement. Vous n'allez pas sur les marchés. En fin de marché, vous laissez donc les producteurs ou les vendeurs de légumes travailler entre guillemets avec les glaneurs, tous ceux qui viennent récupérer les invendus sur les marchés.
Exactement. Alors ça, je me suis rendu compte.
Pas de concurrence en fait.
Exactement.
Hein.
Bah oui, c'est juste ça. Pas de concurrence. Que moi, il y a deux choses. Je préfère laisser cette nourriture qui est accessible aux personnes qui en ont besoin ou qui ont fait le choix de glaner. Et moi, mon objectif en travaillant avec la grande distribution ou les grossistes, c'était d'aller là où le consommateur classique ne peut pas aller. Parce qu'on ne va pas chez un grossiste comme ça, on ne va pas chez Leclerc ou je ne sais pas qui comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais taper là-dedans. Parce que le but, c'est de réduire le gaspillage, c'est pas d'aller piquer la nourriture qui peut être déjà récupérée par
ceux qui en ont vraiment besoin. Oui.
Voilà, c'est ça. C'est aussi un des buts de mon projet.
On va en parler. Vous allez nous donner peut-être quelques petites recettes en seconde partie de cette émission.
Avec
et nous
plaisir.
Dire également où on peut vous trouver. À tout de suite, Céline.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Et seconde partie de l'émission avec Céline Julia des Repêchés Mignons. Elle a dit stop au gaspillage et produit des confitures avec les invendus des supermarchés. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach.
Bonjour
Merci
Doris.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Vous êtes un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Et première question à Céline.
Alors une première question, vous avez des clients qui appartiennent au public, vous leur fournissez de la nourriture, j'imagine que vous êtes astreinte à des règles, je dirais, de type sanitaire par rapport à ce que vous produisez. Et comment ça se passe là dans votre cas, sur votre canot?
Alors vous avez tout à fait raison, je suis assujettie aux mêmes règles d'hygiène que tout producteur alimentaire ou tout traiteur ou restaurateur. C'est-à-dire que j'ai dû suivre une formation hygiène à la Chambre des métiers, qui s'appelle HACCP, qui dure une semaine, pour apprendre toutes les normes, les bactéries, les températures, etc. J'ai suivi aussi une formation d'une semaine à Florac, en Lozère, pour apprendre à transformer les fruits. Où là, parce qu'au début, j'ai commencé en faisant ça à la maison, comme faisait ma grand-mère. Mais je me suis bien rendu compte que, en fait, quand on est pro, c'est pas comme ça qu'il faut faire tout à fait. Il y a des, voilà. Donc, j'ai fait une semaine de formation pour apprendre à faire, des confitures, des coulis, des glaces, etc. C'était génial. J'en ai appris beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup aimé.
Vous avez testé?
Évidemment. C'est tout l'intérêt, quand même, hein. Et du coup, ça veut dire aussi avoir un laboratoire de production et des personnes qui produisent qui sont formées à ces normes-là. Et le laboratoire aux normes, évidemment. Donc, comme tout producteur. Avec un avantage sur les confitures, c'est que c'est un produit très stable. Vous avez tous dû avoir des confitures qui ont peut-être un peu moisi quand elles étaient dans votre frigo. Vous enlevez le moisi, ça repart, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est un produit qui est super parce que c'est très dur de faire tourner une confiture ou de la perdre pour de vrai.
Vous produisez 2000 pots par mois.
Ouais.
Comment vous les vendez? Parce qu'il faut les vendre, ces pots.
Ah oui, oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, je les stocke plus que je les vends, puisque je suis en train de développer mon réseau de distribution sur Toulouse. Pour l'instant, j'ai 4-5 points de vente. J'ai ceci et cela, l'épicerie en vrac de Toulouse, une conciergerie solidaire à Arnaud Bernard qui s'appelle Allo Bernard.
Ouais, que nous avons reçu également dans le goût d'entreprendre.
Oui, j'avais vu, effectivement. Les petits comptoirs, un site de vente en ligne directement du producteur au consommateur qui a été créé par un ami et un salon thé rue des Lois. Du coup j'ai mes 4-5 distributeurs anciens, mes petits chouchous qui m'ont suivi dès le début. Et je suis chez Xavier aussi, Place du Puy, le fromager.
Et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir.
Et l'objectif, c'est d'ouvrir ça et d'avoir une trentaine de points de vente minimum d'ici la fin de l'année sur Toulouse. Et banlieue proche, enfin, et périphérie.
Ouais, ouais.
Et de continuer l'expansion, parce que c'est 2000 pots par mois, il faut les vendre.
Il faut les vendre, pas de vente en ligne.
Alors, pour l'instant, pas de vente en ligne, parce que, comme je vous disais au début, j'aime que ça reste local. Mais alors, je réfléchis à une solution de pré-vente en ligne et que les gens puissent venir récupérer dans des points de vente qui ne peuvent pas vendre mes produits, par exemple. Parce qu'ils ont des contraintes d'espace ou je sais pas, et du coup, je livrerai qu'une seule fois le jour où les gens viennent récupérer leurs produits. Ou vente, pré-vente pour les salariés d'entreprise qui se regroupent comme un groupement d'achat, en fait. Et moi, je livre une fois par semaine ou par mois plutôt, ou quelque chose comme ça. Et puis, après, tout ce qui est ruche, et la ruche qui dit oui, et AMAP. Ouais. Où c'est pas de la vente en ligne, mais c'est
envisageable, de travailler avec eux.
Ah, c'est fait. Ah, ça commence.
Pardon. Déjà, on va en revenir, on va en reparler justement de votre façon de travailler en réseau avec d'autres locaux ou producteurs locaux. Jean-Marie, une autre question.
Tout à l'heure, j'ai identifié votre volonté farouche hein, d'être au plus près, d'éviter les gaspillages, d'être en circuit court, etc., etc. Et je me pose une question toute bête. Hein. Dans votre fourniture, il y a aussi le contenant, hein, les pots. Alors, 2000 pots, bon, quand ils sont pleins, je vois très bien ce qu'on en fait, mais il y a des pots vides. Alors, comment faites-vous pour vous approvisionner en pots? C'est une question.
Vous achetez ou vous récupérez?
Alors, ça, c'est une grande question et c'est un grand travail que j'ai à faire. Alors, au début, quand j'étais moi toute seule à faire mes confitures à la maison, je travaillais qu'avec des pots de récupération qu'on me rapportait sur les marchés, ou alors j'ai harcelé toute ma famille et tous mes amis pour récupérer leurs pots. C'est quand même plus sympa de venir boire un café chez moi que d'aller au récup vert, donc ça marchait pas mal. Là, depuis que je travaille avec la structure d'insertion, j'ai dû acheter des pots parce que je pouvais pas avoir 10 000 pots comme ça, tout d'un coup, propres, de la même taille, etc., etc. C'était une trop grosse contrainte. Mais je continue à récupérer les pots. Et mon objectif, c'est l'an prochain ou l'année suivante, enfin voilà, c'est de travailler un réseau de récupération des pots des personnes, de mes consommateurs ou quoi, pour arriver à les re-remplir après et arriver à faire un circuit comme
ça. De consigner en fait.
Alors c'est déjà le cas chez mes distributeurs. Il n'y a pas le système de consigne payante, mais il y a l'incitation aux consommateurs de venir rapporter le pot vide quand il revient faire ses courses. Et ça marche plutôt bien. Et ça, j'aimerais vraiment continuer à le développer et aller chercher encore plus de pots. Directement dans les entreprises ou quoi, avec un partenaire. On est en train de réfléchir à ça pour voir quelle serait la capacité de récupération et quels sont mes besoins aussi. Parce qu'il faut les stocker aussi, c'est bon.
C'est ça, il faut évaluer le nombre de pots nécessaires à la production. Vous parliez d'entreprises à plusieurs reprises, ça veut dire que vous avez des liens aussi avec des entreprises. Vous envisagez, par exemple, des ateliers confiture dans les entreprises?
Tout à fait. Alors, j'aime bien travailler avec les entreprises. Ça me permet de toucher plusieurs personnes, enfin un groupe de personnes directement, voire même d'essayer d'insuffler quelque chose de nouveau dans l'entreprise avec une sorte de conscientisation. Et alors pour ça, j'ai plusieurs axes d'entrée ou propositions. Je propose de faire des petits déjeuners en entreprise. Et alors ça, on se rend pas compte, mais en fait ça plaît beaucoup aux gens parce que au lieu d'avoir des croissants congelés, ils ont du pain frais et des confitures comme chez les grands-parents. Ou comme à la maison quand ils étaient petits. Et en vrai, enfin, c'est super, parce que les gens adorent ça. Ça, c'est un des premiers moyens. Je fais des ventes en entreprise, évidemment. Je fais aussi beaucoup d'animations. Enfin, j'essaie de faire des animations et formations en entreprise pour apprendre aux gens à faire leurs bocaux, ou moi en direct, ou via Actentiel, un partenaire qui réactive le bonheur en entreprise, comme elles disent.
Qui réactive le bonheur.
Ouais,
et la
sympa.
Confiture, c'est le bonheur.
Ah ben, tout à fait, c'est
tout
gourmand.
Simplement.
Ben, tout à fait.
Jean-Marie, notre question.
Et alors, je me mets de l'autre côté. Je me dis, finalement, comment vous perçoit-on dans les entreprises? Comment vous perçoit vos clients, entre guillemets, quelqu'un de totalement farfelu? Ou est-ce que finalement, ça répond à un besoin pour eux?
Alors, il y a un peu des deux, je pense. Il y a peut-être un côté un petit peu farfelu, un petit peu trop spontané, bout en train, etc. Mais qui ne fait pas de mal en entreprise parce que il y a quand même une sorte de stress en entreprise, une sorte de cadre qui est posé, qui est un peu fatigant et qui est pas forcément, qui permet pas aux gens de se sentir à l'aise tout le temps. En tout cas,
non, c'est pas toujours convivial. Voilà.
Ouais, voilà, c'est pas toujours convivial. Ouais. Donc moi, j'apporte un petit peu de peps et de spontanéité avec mes confitures et bon, et moi.
Et vous-même, votre personnalité.
Exactement. Mais ils me prennent aussi au sérieux et parce que je leur apporte des vraies solutions, des vraies propositions et que je suis, pour l'instant, j'ai la chance ou ils ont la chance que je sois encore très petite. Comme entreprise, du coup, je suis très flexible et je suis ouverte à tout. Et on peut co-construire plein de choses ensemble. Et ça, ils aiment bien parce que généralement, c'est pareil quand ils font des appels à projets ou des appels à quoi, quelque chose. C'est très normé et c'est OK, on te propose ça et c'est fait. Tandis que moi, on peut tout changer et ce serait super.
On peut tout demander, n'importe quel parfum, quelle confiture, de la gelée au coulis.
Exactement.
Vous travaillez pas mal en réseau, localement, avec des producteurs aussi ou pas encore?
Alors, pas encore. Ça, c'est un de mes objectifs de développement. J'aimerais continuer à lutter contre le gaspillage en allant voir directement les producteurs locaux et en essayant... ou de racheter, ou d'aller glaner dans leur champ ce qu'ils ne récoltent pas, car ils savent qu'ils sont en surproduction et qu'il n'y a pas de demande sur le marché. Mais alors ça va prendre du temps, donc j'espère arriver à faire ça l'an prochain, en tout cas faire une étude pour voir si ça peut marcher. et essayer de comprendre les acteurs parce que je suis citadine et que je connais pas forcément la région d'un point de vue production, donc donc ça va être du boulot, mais j'aimerais beaucoup parce que déjà ça collerait plus à ce que moi j'ai envie de consommer. Et ça permettrait d'avoir, de proposer peut-être deux gammes. Une gamme peut-être un peu moins chère avec les invendus de la grande distribution. Et une gamme peut-être plus quali avec les invendus des producteurs locaux.
Le label bio, vous envisagez ?
Pas forcément, parce que ça voudrait dire que j'irais démarcher que des producteurs bio. Et pour moi, le bio, enfin j'adore le bio, hein, mais je me dis que si... les producteurs bio du coin arrivent à me fournir assez pour que je fasse des confitures, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans leur méthode de production.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils produisent trop, en fait. Ils sont plus bio dans ce cas-là, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ils perdent un peu du côté bio pour moi. Ouais. Donc ce sera plutôt raisonné, après s'il y a du bio, tant mieux. Hein. Mais pour moi, raisonné c'est bien aussi, hein. C'est pareil sans l'agrégation, pour moi.
Oui, tout à fait, Jean-Marie.
Oui, puisqu'on est dans le domaine des produits que vous transformez, je me pose une question là, qui peut intéresser nos auditeurs aussi, hein, c'est celle de la saisonnalité des produits. Bon, par expérience...
Les fraises en hiver, chose qui ne va pas là.
C'est pas tout à fait écologique, les fraises en hiver. Ou bon. Alors, comment... et puis, il y a le problème d'une période d'hiver qui a en général moins de fruits que la période de printemps, d'été ou d'automne. Comment résolvez-vous cette question d'une certaine pérennité de l'activité toute l'année?
Alors, l'avantage que j'ai pour l'instant, c'est qu'en travaillant avec la grande distribution et les grossistes, il n'y a plus de saison. Si je fais des récup après le 14 février, donc la Saint-Valentin, j'ai des fraises et c'est sûr. Et pourtant, des fraises en février, c'est un peu compliqué quand même.
Vous regardez la provenance tout de même, la culture.
Oui, je regarde. Mais après, moi, mon but, c'est de lutter contre le gaspillage. Donc, c'est que ce qui a été produit ne soit pas jeté. Donc, je m'en sers. Alors c'est sûr qu'en été il y a quand même beaucoup plus de fruits parce qu'il faut pas se mentir, il y a beaucoup plus de légumes qui m'intéressent aussi. Après en hiver, il y a déjà toutes les courges, les oranges qui là sont de saison, et il y a tous les fruits exotiques qui arrivent aussi, qui sont pas forcément vendus, et du coup ça me fait mes confitures un peu exotiques.
Derrière tout ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait s'interroger, on le fait déjà, mais le fait-on assez, sur notre façon de consommer?
Alors si, totalement. Alors en fait, le gaspillage alimentaire, ce qui est génial, c'est que, comme on dit sur Disco Soupe, de la fourche à la fourchette, il y a du travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser le producteur, l'acheteur, enfin le grossiste par exemple, le distributeur et le consommateur final. Parce que chacun a des efforts à faire, il ne faut pas se dire « non mais c'est pas moi, c'est lui ». En fait, consommateurs, on n'achète pas forcément bien, c'est-à-dire qu'on surconsomme. On consomme des choses qui viennent de l'autre bout du monde alors qu'on a des produits locaux qui sont très bons. Et qu'en fait, il faut se dire que si ce n'est pas produit autour de chez nous, c'est qu'on n'en a pas besoin et qu'on n'a peut-être pas les mêmes besoins. Enfin, voilà. Il faut apprendre aussi à être raisonné et à apprendre à consommer. Et apprendre à cuisiner ce dont on a besoin et à réutiliser les restes. C'est pas parce que c'est un reste que c'est pas bon le lendemain.
C'est ça.
Un reste de poêle de légumes.
Il y a un gros travail de pédagogie. Vous avez ce travail à faire, Céline.
Et oui, mais c'est un des buts aussi. Hein. Moi, mon but, c'est pas que de transformer parce que ça, c'est facile. Moi, mon but, c'est d'arriver à parler au consommateur et à le faire changer un petit peu ses habitudes. Après, je veux pas le changer de A à Z parce que ça marche pas comme ça. Et c'est en étant, spontané, fun, en essayant de faire rigoler les gens, qu'on peut leur faire prendre conscience de certains trucs sans qu'ils s'en rendent compte, ou qu'ils s'en rendent compte, mais ce sera pas une contrainte pour eux.
Ouais, c'est
ça. Faut pas être moralisateur.
Vous pourriez faire de la politique.
Ça serait
inspirant, nouveau, un vent nouveau soufflerait en politique.
Non, mais ça, je pense qu'il y a des gens mieux placés que moi pour faire ça.
Mais pourtant, il y a à faire. Hein.
Ah oui. Mais la consommation est un acte politique. Et savoir comment on consomme influe totalement sur la société.
C'est un acte engagé, absolument.
Totalement. Donc moi, je ne veux pas faire de politique en tant que telle, mais je veux que mon mode de vie soit un acte politique. Ça, oui.
Et préserver notre planète.
Évidemment, la base.
Jean-Marie, le mot de la fin?
Ben écoutez, moi j'apprécie beaucoup les confitures. Alors, j'étais très très heureux d'entendre. Et puis vous verrez peut-être parmi mes clients, vos clients. Mais ma femme est une excellente confiturière. Alors,
je ne veux pas lui faire de concurrence.
Non, mais je vais tout lui dire.
Ça marche. Ah oui, juste, on va terminer là-dessus une petite recette rapidement.
Alors, vous pouvez essayer fraise poivre. Si vous aimez un peu vous faire des blagues, vous faites la confiture de fraise classique et vous mettez des gros grains de poivre entier dedans. Uh-huh. Et vous verrez, faut être un peu audacieux, mais quand vous croquez dans le grain de poivre, ça réveille la fraise et ça vous réveille à vous aussi, et c'est très très sympa. Tiens.
Votre adresse, votre site internet, on enverra nos commentaires. Attention, vous allez recevoir les commentaires des internautes.
Super, auditeurs. Je les attends avec plaisir.
Votre adresse internet.
Alors, c'est lesrepetschemignon.fr, tout simplement.
Tout simplement, merci à vous.
Merci à vous.
Gardez cet enthousiasme.
C'est sûr.
Merci Céline des Repetschemignon, merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.